Chères auditrices, chers auditeurs de cette émission mensuelle de la Libre-Pensée, bonjour. Sont au micro Claudette Coudeville, Michel Garin, Henri Huil et moi, Michel Cadouche. Nous avons aussi un invité, membre de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, notre ami Éric Larnouet. À la technique, il y a Michel Garin et Daniel Bureau. Dans une actualité très agitée, nous retiendrons trois éléments qui sont mis au second plan, mais qui intéressent au premier chef toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la liberté de conscience. Une loi sur la fin de vie qui est en train d'être discutée au Parlement. Une nouvelle affaire de violence au sein de l'Église catholique, longtemps dissimulée. Et le questionnaire que la Libre Pensée adresse aux listes en présence dans les élections municipales. Je vous rappelle que nous sommes sur Radio Galère, 88,4 MHz. Tout d'abord, nous allons demander un éclairage à notre ami Éric. Peux-tu présenter, s'il te plaît, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité et son objet?
Bonjour à toutes et à tous. Oui, je peux présenter l'ADMD et la loi qui a été promulguée le 28 février 2026. L'ADMD est une association, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est une association nationale laïque à vocation humanitaire. Elle prône le droit de chacun d'avoir une fin de vie conforme à ses conceptions personnelles de dignité et de liberté. Dans cette perspective, la DMD entend obtenir qu'une loi visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté et à assurer un accès universel aux soins palliatifs soit votée par le Parlement, comme le réclament environ 92% des Français interrogés par l'Institut de sondage IFOP en mai 2024. Avec le vote de cette loi, les Français bénéficieraient de leur ultime liberté, comme les Néerlandais, les Belges, les Luxembourgeois, les Espagnols, les Portugais, les Autrichiens ou encore les Suisses qui en disposent dans leur propre pays. Le principal objectif de l'OMD demeure que chacun puisse, à sa stricte demande, bénéficier d'une mort consentie, sereine et digne. La dignité étant une convenance envers soi dont chacun est seul juge. Cette demande d'aide à mourir doit être évidemment libre, consciente, réitérée et révocable à tout moment, parce qu'il s'agit d'une liberté dont chacun usera ou n'usera pas. À ce sujet aussi, la DMD a mis en œuvre un fichier national des directives anticipées. Ce document, précisé par la loi de février 2016, est numérisé et archivé. Ce document est aujourd'hui le meilleur moyen de garantir son propre parcours de fin de vie afin d'éviter des tragédies absurdes. Voilà. La DMD met en ligne aussi une ligne téléphonique, la DMD Écoute, qui est donc que vous pouvez consulter sur le site de la DMD. À ce sujet, ça c'est l'historique de la présentation de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Très bien. Alors, merci Eric. Il y a une loi qui est sur la fin de vie, justement, qui est en discussion au Parlement. Quel en est le contenu et, enfin, pour l'essentiel, bien entendu.
Alors, cette loi a été votée par le Parlement le 25 février 2026 par 299 voix contre 226. Elle a adopté donc la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir pour certains malades. Il faut remarquer que le texte doit désormais encore être débattu par les sénateurs du 1er au 2 avril 2026. En cas de rejet, comme en première lecture, l'Assemblée aura le dernier mot. Donc cette loi est en fait la suite de plusieurs lois consécutives. Et je vais faire un rapide historique auparavant, c'est-à-dire qu'il faut voir que le droit au suicide assisté, à l'euthanasie, existe depuis longtemps. Le problème existe depuis longtemps. Et il faut voir qu'avant avant même la loi de 2000, la première loi de 2005, il y a eu pas mal de précédents. Dès 1978, le sénateur Henri Caillavet avait déjà proposé une loi qui avait été rejetée, vilipendée. Enfin, il a été attaqué de toutes parts par tous les conservatismes et des meilleurs, que ce soit des conservatismes politiques ou et religieux. Il faut voir aussi que même avant 1978, certains médecins pratiquaient l'euthanasie. Moi, je me rappelle avoir rencontré le professeur Schwarzenberg dans les années 70. Et donc, il pratiquait, et il ne s'en cachait pas, il pratiquait déjà l'euthanasie pour certains malades. Donc, on était dans les années 75-76 à peu près. Bref, donc, après 1976-78, il y a eu de nombreux débats, mais qui n'ont pas abouti à une proposition de loi. Donc il y a eu une proposition de loi et une loi qui a été votée en 2005. Cette loi de 2005, elle est un petit peu, elle a permis au moins de mettre un petit peu les choses au point. Elle a pas légalisé l'euthanasie, mais elle a indiqué que les traitements ne devaient pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et a fait obligation de dispenser des soins palliatifs. Il faut savoir aussi que déjà en 2005, ou déjoué en 2005, les soins palliatifs n'existaient pas partout en France et dans tous les départements. Et beaucoup d'établissements n'étaient pas aptes à promulguer, enfin, à faire ces soins. La loi Leonetti de 2005 prescrivait aussi des traitements antidouleurs efficaces, même s'il pouvait résulter une mort rapide. Après, il y avait si le malade était inconscient ou l'arrêt et la limitation du traitement ne pouvaient être décidés que dans une procédure collégiale, après consultation d'un proche ou d'une personne de confiance qui avait été préalablement désignée par le malade. Il est tenu compte aussi des directives anticipées formulées par le malade. Donc là, on s'aperçoit que les directives anticipées prenaient déjà toute leur place. Cette loi de 2005 n'a pas été appliquée. Elle a été appliquée plus ou moins. C'est-à-dire qu'elle a été... Après, on est passé à la loi de 2016. Donc il a fallu attendre plus d'une dizaine d'années pour avoir une nouvelle loi, qui est la loi Claeys-Leonetti, qui, je dirais, qui améliorait un petit peu la loi de 2005. C'est-à-dire qu'il y avait interdiction de l'acharnement thérapeutique, droit à sédation profonde et continue jusqu'au décès, respect des directives anticipées qui s'imposent désormais aux médecins, sauf en cas d'urgence vitale, etc. Et renforcement du rôle de la personne de confiance et accès aux soins palliatifs. Donc c'était une amélioration de la loi de 2005, mais elle ne correspondait pas à ce que souhaitait la DMD. On arrive, après moult débats, à la loi du 25 février 2026, donc qui a été votée par l'Assemblée nationale. Et il faut voir que cette loi, elle améliore nettement la loi de 2016, puisque les députés ont tranché en décidant de faire de l'auto-administration de la substance légale la règle et l'administration par un soignant l'exception. Voilà ce qui se doit advenir si le patient n'est physiquement pas en mesure de le faire, auquel cas un médecin ou un infirmier s'en chargera. C'est-à-dire que si la personne a toute sa conscience et réitère jusqu'au dernier moment qu'elle souhaite mourir dans la dignité et qu'elle n'est physiquement pas capable de le faire, à ce moment-là, un médecin ou un infirmier, c'est bien un infirmier, peut le pratiquer. Alors là, c'était un petit peu délicat parce que l'ADMD souhaitait bien sûr ce suicide assisté en tant que auto-administration et après avis du médecin, puisque le médecin est le seul apte à faire la prescription et donc à fournir le produit pour la fin de vie. Mais la DMD souhaitait toujours, et souhaite toujours, et ça, ça n'a pas été voté par les députés, qu'il y ait le libre choix entre le suicide assisté et l'euthanasie. Peu importe la capacité physique, et à tout moment, le malade peut changer d'avis. Exemple, en Belgique, il faut savoir que 9 personnes sur 10 choisissent l'euthanasie et non pas le suicide assisté. Parce que, pour différentes raisons, mais ça n'empêche... donc c'est 9 personnes sur 10, ça peut paraître très important, mais c'est une constatation. Et il faut voir aussi que dans la dernière loi, donc la loi du 25 février, qui a été votée, je le rappelle, les directives anticipées n'ont pas été prises en compte. Ce qui est bien dommage parce que, en effet, les directives anticipées permettent d'étayer la volonté du malade et donc d'appuyer et de permettre aussi aux soignants ou à l'infirmier ou aux médecins qui vont pratiquer le geste d'être conformes complètement aux volontés du patient. Alors, il y a aussi une dernière petite chose, enfin, si on peut dire. Les députés se sont également prononcés sur la caractérisation de souffrance. Donc, il y avait un problème sémantique sur la souffrance physique, psychologique, etc. Donc, disons qu'on est passé, on a passé un petit peu dessus. C'est-à-dire qu'on reste quand même toujours orienté vers la volonté du patient.
Très bien, Eric. Une dernière question. Le docteur Jean Leonetti, dont tu as parlé là, précédemment, a récemment déclaré qu'il y avait une forme d'indécence et de provocation dans l'adoption rapide d'un texte sur la fin de vie. Quelle est ta réaction ?
Disons que ça dépend ce qu'on appelle rapide. Si 30 ans, 50 ans, c'est pas rapide ou rapide, je sais pas. Je pense que le docteur Leonetti va un petit peu à l'encontre de sa loi ou alors c'est un petit peu hypocrite. On a mis du temps pour arriver à cette loi-là. Il faut voir que la loi sur l'euthanasie, le suicide assisté ont été votées en Belgique et en Hollande depuis les années 2000. Donc ça fait 25 ans. Donc je pense qu'on a eu le temps de réfléchir. Et toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut laisser... Moi, je pense qu'il faut laisser à la personne le libre choix et qu'on ne dépende pas ni des lois, entre guillemets, ni des conservatismes religieux, politiques, et que cette ultime liberté doit être préservée. Et donc, je ne comprends pas trop l'argument du docteur Leonetti qui souhaite... A priori, en écoutant son commentaire, on a l'impression qu'il regrette un petit peu d'avoir donné son nom aux lois précédentes, qui sont moins avancées que la dernière loi, mais qui est quand même déjà une avancée. Donc.
Bon, dis-moi. Et qu'est-ce qui vous envisagez maintenant ?
Alors, la DMD se félicite quand même de la loi qui a été adoptée. La DMD a fait un communiqué le soir même de l'adoption de cette loi en disant que... Elle se félicitait bien sûr de l'adoption du texte sur les soins palliatifs, parce qu'il faut voir qu'au niveau des soins palliatifs, il y avait beaucoup de réticences de certains députés, députés, parce que les soins palliatifs ne peuvent pas être appliqués partout. Donc c'est vrai que ça demande un budget particulier pour que les soins palliatifs soient réalisés dans tous les départements et dans de nombreux... que tout le monde ait accès aux soins palliatifs si nécessaire. Donc certaines personnes avaient peur que le suicide remplace les soins palliatifs et qu'on accélère un petit peu trop la fin de certains patients. Mais ce n'était pas le cas. Donc la DMD déplore toujours l'absence du libre choix entre l'auto-administration le suicide assisté et l'administration par un tiers soignant, l'euthanasie. Et ça, c'est ce qui reste, il reste en suspens et qui reste en débat. Mais malgré tout, on a déjà une avancée importante par rapport au début des années 2000. Même si ça ne plaît pas au docteur Leonetti.
Bien, ben, écoute, merci Eric. Et puis, écoute, il me semble que tu as choisi une chanson pour illustrer ton propos. C'est Le Dernier Repas de Jacques Brel. Tu peux dire
j'avais
deux mots.
J'avais choisi cette chanson, mais en fait, je trouvais que c'était Le Moribond de Jacques Brel. Mais je me suis dit, la fin de vie, c'est encore la vie. Donc j'ai choisi C'est la vie de Mika. et donc je vous encourage à regarder le clip aussi et c'est très et j'ai changé au dernier moment. Donc c'est vrai que vous n'êtes pas forcément tous au courant de mon changement. Mais je peux encore changer dans 15 secondes. Hein. Autrement, bon, c'est la vie de Mika.
C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ce rite sur mon visage? Pourquoi elles viennent capter mon âge? Même si vieillir est un naufrage. C'est quoi ces fleurs et son amour? Mes frères et sœurs et leur cœur lourd, placard fermé à double tour.
Henri, nous avons récemment appris le décès de Leila Chahid. Peux-tu rappeler qui était cette combattante de la cause palestinienne, s'il te plaît ?
Oui, merci Michel. Donc Leïla Chahid était une figure éminente du combat pour la souveraineté de la Palestine. Elle nous a quittés le 18 février 2026. La Fédération nationale de la libre-pensée éprouve une profonde tristesse à l'annonce de ce décès. Nous avions eu le plaisir, en effet, de travailler avec cette combattante infatigable de la cause palestinienne. Marquée par la puissante révolte du peuple palestinien en 1936 contre la domination mandataire britannique sur la Palestine, elle fut cousine d'un résistant mort durant la Nakba de 1948 lors de l'offensive contre le peuple palestinien menée par la Haganah et l'Irgun, deux milices israéliennes, qui commirent des massacres effroyables. Elle rejoint très jeune, après la guerre des Six Jours, donc en juin 1967, qui débouche sur l'occupation illégale de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Donc elle rejoint le Fatah de Yasser Arafat, fondateur de l'OLP, Organisation de Libération de la Palestine. Après avoir présenté avec succès devant l'université américaine de Beyrouth sa thèse de sociologie sur les camps de réfugiés palestiniens, elle se consacre entièrement à son engagement en faveur de la souveraineté de la Palestine. Celui-ci relève une dimension internationale à compter de la fin des années 1980. Ainsi, en 89 et 90, elle représentera l'OLP auprès de la République d'Irlande et des royaumes du Danemark et des Pays-Bas. Elle exerce en partie en même temps les fonctions de déléguée générale de l'OLP en France, c'est-à-dire de 1994 à 2005, c'est-à-dire pour l'essentiel sous les mandats de Jacques Chirac, qui fut un soutien inconditionnel de Yasser Arafat, décédé dans un hôpital militaire français en 2004, je le rappelle, et opposant à l'intervention anglo-américaine en Irak en 2003. De 2005 à 2015, elle poursuit ce même mandat de délégué général de l'OLP auprès de l'Union européenne. Durant ce séjour bruxellois, elle organise en 2009 le tribunal Russell sur la Palestine, qui entend promouvoir la paix et la justice au Proche-Orient. Ceci avec le concours de notre ami Pierre Galland, sénateur socialiste de Belgique de 2003 à 2007 et président de l'association belgo-palestinienne depuis 1986. Retirée depuis plusieurs années dans le sud de la France, elle reste une combattante de la cause palestinienne et n'hésite pas à exprimer publiquement son opinion sur ce sujet, en toute liberté. Ainsi, en 2021, lors de l'hommage rendu à la Maison des Avocats à notre regretté ami Michel Tubiana, qui était président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, avec lequel elle a beaucoup travaillé, elle fait part de son scepticisme sur la viabilité d'une solution dite à deux États, position qu'elle avait pourtant défendue depuis des années et pendant des décennies. Elle regarde alors avec intérêt l'idée de fonder un État laïque et démocratique avec deux composantes. En 2003, face à M. Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, qui la suit d'ailleurs sur ce plan, elle juge effroyable l'action du 7 octobre 2023 du Hamas. Elle considère néanmoins inutile sa condamnation en l'absence de toute réflexion approfondie sur les causes d'un tel événement. Le MRAP rappelle dans son hommage, je cite le MRAP, elle ajoutait encore récemment, en octobre 2025 dans l'Humanité, « Le monde entier a les yeux fixés sur les images de la télévision et voit des enfants mourir de faim, des personnes âgées semblables à celles sortant des camps de concentration en 1945. La communauté internationale a été d'une lâcheté totale, et j'inclus les pays arabes, les Européens et les Américains. Pour nous tous, elle restera toujours celle qui a dit un jour, montrant ainsi sa profonde humanité, « Moi, je n'ai pas d'enfants, tous les enfants de Palestine sont mes enfants ». La Fédération nationale de la libre-pensée s'incline donc devant Mme Leïla Chahid et présente son soutien renouvelé au peuple palestinien aujourd'hui en deuil.
Bien. Et autre chose, une nouvelle affaire de violence dans une institution religieuse catholique vient d'être révélée. Claudette, de quoi s'agit-il ?
Oui, bonjour. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est importante, la question des violences réalisées chez les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Fin janvier 2025, un rapport émanant d'une commission indépendante sur les abus spirituels et les emprises psychologiques au sein des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre est paru. En 2024, à la demande de cette congrégation, mais aussi d'anciens membres de celle-ci, suite à des révélations de violences perpétrées au sein de cette communauté, les bénédictines ont confié à un ancien haut fonctionnaire, Hervé Guillaume, la mission de créer une commission indépendante et d'établir un rapport sur la situation. Alors tout d'abord, quelques mots sur la congrégation. Elle fonctionne selon les règles de Saint-Benoît, prière, vie communautaire et travail. Les sœurs sont environ une centaine réparties sur plusieurs prieurés. Elles font vœu de pauvreté et ne sont donc pas rémunérées pour leur travail. La congrégation est au service de la basilique de Montmartre, dont elle assure l'animation spirituelle et matérielle. Elle participe aux animations, propose des activités pour les enfants, des temps de prière pour les visiteurs et les pèlerins, et assure des tâches au sein de l'hôtellerie du Sacré-Cœur. Venons-en au travail de la commission. Déjà, en 2023, après des décennies de silence, la congrégation avait reconnu un système d'emprise aux conséquences graves et durables existant depuis plusieurs années, depuis même plusieurs dizaines d'années. Le rapport de la commission révèle l'existence, à partir de 1970, d'un système qu'il attribue à la mère supérieure de l'époque, sœur Marie-Ange, peu importe son nom, laquelle instaurait une emprise sur les sœurs, fondée sur leur isolement vis-à-vis de leur famille et entre elles, de surveillance, de silence imposé et de délation. Ces dérives, dit le rapport, sont devenues rapidement systémiques, se sont traduites par une dépersonnalisation, une suractivité destinée à empêcher toute prise de recul, ainsi qu'une soumission médicamenteuse pour les plus récalcitrantes ou les plus éprouvées. Tout ceci était connu de l'Église depuis au moins 2004, date d'une première visite apostolique. Et il faudra attendre 2012 pour une visite sérieuse de l'Église. Durant tout ce temps, les conditions de vie se sont encore durcies. La commission a examiné les réponses aux questionnaires et durant les entretiens qu'elle a organisés sur une période allant de 1969 à 2012. 159 entretiens ont eu lieu. 86 femmes, actuellement membres donc des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, et 28 ayant quitté la communauté ont été interrogées par la commission elle-même. Et 45 entretiens l'ont été par des évêques, des prêtres, des religieux et des laïcs, laïcs avec un C. 1480 faits d'abus ont été recensés sur la période examinée. Il ne s'agit pas ici d'abus sexuels, mais de violences physiques, d'abus de pouvoir, spirituels et psychologiques, manipulation de conscience, de même que des malversations financières. Avant d'aller plus loin, notons que si ce rapport présente l'intérêt important de dénoncer les violences inouïes qu'ont subies les femmes dans cette congrégation et leurs conséquences, pour autant, les investigations ont été menées en regard des règles de vie établies par les constitutions de cette congrégation sans les remettre en cause.
Oui, je rappelle que nous sommes sur Radio Galère 88,4 MHz. Claudette, peux-tu nous indiquer quelles sont les maltraitances et malversations que le rapport de la CIASEP a relevées ?
Oui. Alors d'abord, les maltraitances physiques. Ces maltraitances étaient justifiées au nom d'un prétendu bien spirituel qu'elles pouvaient apporter. En particulier, autour de la nourriture. Les repas, il y avait des repas forcés et déséquilibrés, des gavages allant jusqu'au vomissement, et pesées obligatoires et régulières sans droit de connaître son poids. Un témoignage indique que c'était signe de vocation quand on prenait du poids. À propos du travail journalier, certaines indications, enfin certaines sœurs disent, il est écrasant pour certaines d'entre nous, notamment dans les sanctuaires, où la charge était pensée pour empêcher toute réflexion. À ce propos, donc, les sœurs tiennent un établissement de 170 lits attenant à la basilique Montmartre. La suite, lorsque les hôtes étaient trop nombreux, les sœurs devaient céder leurs cellules et descendre dans les caves. J'étais logée dans une cave avec un lit et pas de place autour, pas de fenêtre et des toilettes éloignées. Ensuite, le manque de soins ou la délivrance de soins inadaptés. Là encore, des témoignages. Nombreuses prises de médicaments sans notice et sans que les sœurs sachent de quoi il s'agissait. Ordonnances modifiées ou renouvelées sans l'avis du médecin. Les douleurs physiques et psychiques étaient peu prises en compte et l'intimité comme le secret professionnel pas respectée. Chaque sœur se voyait imposer la présence d'une autre lors des consultations médicales et c'est cette dernière qui répondait à la place de la malade. La prieure allait jusqu'à modifier les prescriptions du médecin en piochant dans les nombreux médicaments de la congrégation. À propos d'autres violences, les pressions et emprises psychologiques, maltraitances psychologiques. Le rapport note un régime d'infantilisation, de culpabilisation, d'humiliation, de dévalorisation, créant un climat d'angoisse, d'insécurité, de stress permanent et de peur, alimenté notamment par la présence de chiens agressifs. Les déclarations des femmes soulèvent les conditions de leur noviciat, période qui précède donc la prononciation des vœux, dont les différentes étapes étaient souvent réduites sans réel accompagnement. Un témoignage, le noviciat nous déformait et nous infantilisait, nous étions mises sur des rails, on ne nous a rien demandé, c'était automatique, prête ou pas, ce n'était pas la question. La prieure déclarait, entrer le plus rapidement possible pour ne pas abîmer la vocation de la jeune fille. Même la préparation à la prononciation des vœux pouvait être négligée. J'ai été prévenue à 14h pour 17h et j'ai dû écrire ma lettre en 15 minutes. Et on m'a dit, soit tu fais profession, soit tu prends la porte. Viennent les détournements financiers. La congrégation prenait en main les biens des sœurs dès le postulat. Alors selon le rapport donc, de la SIACEP, certains de ces biens servaient à des profits personnels, dissimulés et sans l'accord des propriétaires. Comptes bancaires et livrets vidés, héritages captés. En parallèle de cet enrichissement, le train de vie de la prieure et de deux sœurs de la gouvernance a interpellé la SIACEP. L'aveuglement, la surdité, voire la complicité de certains prêtres et laïcs sont à noter. La remise discrète et régulière de plusieurs enveloppes d'argent interroge. Je cite là le rapport. Alors, situation de sortie des sœurs. À la sortie, les sœurs se trouvaient pour la plupart sans aucune ressource et formation pour revenir à la vie civile. L'une d'entre elles disait « Je suis sortie avec 300 francs par mois pendant un an ». Outre l'emprise qu'elles ont subie, cela peut expliquer aussi leur incapacité à partir.
Oui. Donc, peux-tu nous indiquer les propositions de réparation faites par la commission?
Alors, les propositions donc, de réparation, il y en a 58. Elles vont des demandes de pardon de la part de l'institution, les signalements des médecins complices, accompagnement psychologique et psychiatrique des sœurs, les indemnisations, le rattrapage des retraites non versées, le remboursement de soins, le remboursement des sommes détournées avec intérêt. Pour finir, je voudrais dire, si le rapport de la SIACEP a été très positivement reçu par la congrégation et par l'Église, je vous invite à aller voir la déclaration de la Commission des évêques de France, plusieurs anciennes de la congrégation, de même que l'association AVREF, cette association qui avait accompagné les travailleuses missionnaires des restaurants L'Eau Vive à Marseille, dénonce le travail de la commission, la composition de son équipe, l'absence de psychiatre, une méthodologie restrictive, l'exclusion d'une partie des victimes, le silence sur les complicités ecclésiales et l'absence d'analyse de la période récente, c'est-à-dire la période de 2012 à 2025. Sur un site nommé « Après la SIAS, le rapport sur les bénédictines de Montmartre » est ainsi présenté. Une étape essentielle, mais que d'angle mort. L'affaire aura donc des suites.
Bien. Écoute, je vais te demander de nous présenter une chanson pour illustrer ton propos.
Oui, alors donc il s'agit de « La nonne » de Georges Brassens. La légende de la nonne de Georges Brassens. À l'origine, il s'agit d'un poème de Victor Hugo, paru en 1868 dans le recueil Odes et Ballades. Donc la chanson reprend ce poème en partie, parce qu'il est très très long à l'origine. Le rapport raconte l'histoire d'une belle femme très chaste qui fuit les joies de la vie et s'en écarte en prenant le voile. À peine intégrée, elle découvre l'amour et malgré ses vœux, elle succombe et donne rendez-vous à son futur amant. Mais la punition divine tombe et les amants sont foudroyés. Par la suite, l'Église va entretenir l'histoire afin de dissuader les jeunes filles vierges dont elle peuple ses couvents de s'adonner à leur penchant, ce qu'elle nomme le vice. Voilà.
Venez-vous dont l'œil étincelle pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Doña Paria del Flor. Elle était d'Alonge où s'entassent les collines et les halliers. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il est des filles à Grenade, il en est à Séville aussi. Qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est que parfois embrasse le soir de hardi cavalier. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla, car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ce qui pourchasse les filles sous les peupliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Elle prit le voile à Tolède, au grand soupir des gens du lieu. Comme si quand on n'est pas laide, on avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or la belle à peine cloîtrée, amour en son cœur s'installa. Un fier brigand de la contrée vint alors et dit me voilà. Quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il était laid, les traits austères, la main plus rude que le gant. Mais l'amour a bien des mystères et la nonne est mal brigand. On voit des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. La nonne osa, dit la chronique, au brigand par l'enfer conduit. Au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit, à l'heure où les corbeaux croassent, volant dans l'ombre par milliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or, quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit. Au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ses coups frappassent les amants par Satan liés. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, Saint-Ildefonse avait voulu qu'afin de préserver du vice les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les couvents réguliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
Oui. Très bien, merci. Michel, dans 11 jours, il y aura le vote du premier tour des élections municipales.
Michel, la libre pensée n'y est pas indifférente et envoyait un questionnaire à des listes candidates.
Oui, bon, ben, tu viens de le dire, nous avons envoyé une liste aux candidats. Et cette liste, bien entendu, nous l'avons bien entendu précédée d'une lettre. Hein, cette lettre est une lettre du président de la Fédération nationale de la libre pensée, qui est Benoît Schneckenberger. Je fais attention à la prononciation du nom, parce que vous savez les problèmes qu'il peut y avoir actuellement sur la prononciation du mot. Donc, cette lettre, en introduction, d'abord, avant de l'introduire, je dirais tout simplement, il faut d'abord rappeler que la libre pensée ne prend pas position pour les votes. Hein. La libre pensée est apolitique et elle est laïque et sociale. Et de ce côté-là, bien entendu, elle a des penchants plutôt d'un côté que de l'autre. Mais enfin, ça, elle ne donnera pas de consignes de vote. Néanmoins, on se permet quand même de poser des questions concernant la laïcité. Alors, je vais vous lire quand même cette lettre, le début, je dis cette lettre et puis la fin. Hein. Si vous voulez plus de renseignements, vous le trouverez sur le site de la Libre Pensée. Monsieur, madame, madame, monsieur, plus exactement, parce qu'on est poli, vous conduisez une liste qui sollicite les suffrages des citoyennes et des citoyens de votre commune à l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. La Fédération nationale de la Libre Pensée vous saurez gré de bien vouloir répondre au questionnaire accompagnant la présente. Celui-ci a pour objet de connaître et de faire connaître vos intentions en matière de laïcité, un principe qui s'applique aux institutions publiques et non aux individus. Alors, nous avons joint à cette lettre hein, un petit memento, hein, qui est un memento qui est issu de l'association des élus amis proches de la libre pensée. C'est un petit memento pour une gestion laïque des communes. Et en plus, donc, de ce questionnaire. Et pour finir dans notre phrase, dans notre lettre qui s'adresse donc aux têtes de liste, enfin, têtes de liste à la liste, plus exactement. Je finirai en vous présentant au suffrage par la voie démocratique. Vous serez, nous en sommes sûrs, à cœur de représenter le peuple et non de vous soumettre à une cléricature de quelque religion qu'elle puisse être, comme nous y appelait déjà l'immense Victor Hugo, l'Église chez elle et l'État chez lui. Voilà l'origine, le début et la fin de cette lettre.
Oui, j'ai proposé que nous en avons parlé, que tu présentes la chanson « Je retourne ma veste » de Jacques Dutronc.
Non, mon ami Michel, il y a un petit bug. Je vais juste, bien entendu, parler du questionnaire. C'est de ma faute,
pardon.
Je n'ai pas envoyé la phrase intermédiaire. Mais voilà, il faut bien un peu... oui, parce qu'on donne quand même quelques renseignements à nos éditeurs sur la façon dont sont posées les questions de ce questionnaire, pour dire tout simplement. Alors, il a été partagé en plusieurs parties. La première partie, c'est en matière de financement de culte. Elle est sur le principe, vous engagez-vous, on pose une question et là, on coche en définitive le oui ou le non. Ouais. Alors, à ne financer, par exemple, pour la première question, à ne financer l'entretien et la conversion des lieux de culte que dans la limite prévue par la loi du 9 décembre 1905 et n'accorder aucune aide publique au titre de leur réparation sur le fondement de l'alinéa donc de la loi. La deuxième question, par exemple, à ne consentir à titre gratuit aucun bail emphytéotique administratif à une association culturelle. Le troisième, à ne pas accorder la jouissance d'une salle municipale à un culte disposant de l'usage d'un édifice culturel dans le ressort de la commune, ni à consentir, dans le cas contraire, une telle jouissance à des conditions financières plus favorables que celles prévues par les délibérations tarifaires de la collectivité. À ne financer à aucune matière. Donc vous comprenez qu'on pose plusieurs questions. Je ne vais pas vous énumérer toutes ces questions. Le deuxième chapitre, je vous ai parlé tout à l'heure donc, du premier champêtre en matière de financement des cultes. Nous en avons un autre, le chapitre suivant. En matière de relations avec l'enseignement privé, vous engagez-vous, là c'est pareil, je vais vous donner un ou deux premiers articles, à calculer chaque année le plus strictement possible le forfait communal versé aux écoles privées sous contrat en excluant notamment de son assiette toute dépense de la collectivité relative aux activités périscolaires de l'enseignement public. Là, pareil, oui, non. a veillé à ne pas aider indirectement les activités périscolaires de l'enseignement privé sous contrat par des mises à disposition de personnel ou de dons en nature. Vous le voyez, là aussi, on met plusieurs questions propres à l'enseignement privé. Alors, le troisième chapitre, je dirais, c'est en matière de neutralité de la gestion communale. Alors, vous engagez-vous, toujours le même principe, à faire preuve de la plus stricte neutralité lorsque vous agirez en qualité d'officier d'état civil ou d'officier de police judiciaire. Oui, non. À faire preuve de la plus stricte neutralité lorsque vous représenterez la commune dans le cadre de votre mandat. Par exemple, on peut dire sur Marseille, ça a été le cas, participer à la participation des élus, de certains élus aux cérémonies comme la bénédiction des navettes ou les, d'autres cérémonies qui ont eu lieu en présence de la municipalité officiellement. Et vous avez encore un autre chapitre, bien sûr, c'est en gros, c'est plutôt la, je dirais, la conclusion de notre questionnaire. C'est sur un plan plus général. Êtes-vous favorable alors à l'abrogation des dispositions du Code de l'éducation issues de les lois modifiées Falloux et Debray de 1850 et 1959, compte tenu de l'ampleur du financement public de l'enseignement privé sous contrat et des inégalités scolaires et sociales croissantes qu'il engendre? Et là, je vous lis également le deuxième point là-dessus, parce qu'il est important, c'est un peu le combat spécifique à la libre pensée, je dirais. À l'abrogation du CEL du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, qui introduit notamment le contrat d'engagement républicain, source de difficultés dans de nombreuses communes, compte tenu des atteintes qu'elle porte aux lois du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association et le 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Voilà le questionnaire qui est envoyé à gérer aux têtes de liste. Bien entendu, il y a peut-être un choix, bon, on ne sait pas trop, ça peut être un peu, des fois on nous dit oui, non, mais enfin, on pense que, tout simplement qu'il y a peut-être certaines listes qui, dont la réponse est évidente, je ne sais pas, qu'on leur envoie peut-être un questionnaire, s'ils le mettent à les poubelles directement. Voilà pour ce qui est du questionnaire, que je rappelle, vous le trouverez sur le site de la Libre Pensée, que mon ami Michel citera tout à l'heure. Voilà.
Voilà. Et donc, je propose cette chanson de Jacques Dutronc. Je retourne à ma veste.
Alors, oui, je reprends la parole. Décidément, qu'on me la donne, je ne la quitte plus. Alors, le titre exact de cette chanson, en définitive, ce n'est pas « Je retourne ma veste », c'est « L'opportuniste ». L'opportuniste, c'est une chanson de Jacques Dutronc qui est sortie en juillet 1968. C'est une date quand même qui parle pour beaucoup, surtout ceux de notre génération, de ma génération, et de ceux qui sont autour de la table d'ailleurs, un peu de sauce près. Donc, comme près, c'est une chanson qui était comme premier extrait de l'album homonyme qui est apparu la même année. Dutronc la reprendra en 1992 lors de son passage au Casino de Paris. Alors, cette version de 1966 s'est vendue à plus de 50 000 exemplaires, tandis que la version live de 1992 s'est vendue à plus de 30 000 exemplaires, ce qui est quand même conséquent. Il faut rappeler qu'il y a également eu, en 1982, une version de Indochine qu'il a repris dans son album « L'Aventurier ». Alors, bien entendu, cette chanson, c'est Jacques Dutronc, ça, dans « L'Opportuniste », il attaque les politiciens, c'est évident. « Je retourne ma veste, toujours du bon côté ». Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. La date et le texte indiquent que Jacques Dutronc s'en prend notamment aux hommes politiques faisant la récupération de mai 68. Alors voilà. Hop.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs
j'en profite pour faire mon bas. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. De toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Et il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, celui de retourner ma veste. Mais toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné, tel crack de tous côtés. À la prochaine évolution, je retourne mon pantalon.
Oui, Henri, s'il te plaît. Quatre fédérations syndicales enseignantes viennent de publier une déclaration. Peux-tu nous dire pourquoi ?
Tout à fait. Donc voilà, les organisations suivantes, la Fédération Sud Solidaire de l'Enseignement, la CGT Éducaction, la FNEC FP Force Ouvrière et la FSU ont fait un communiqué. C'est une lettre à l'attention de M. Édouard Geoffroy, ministre de l'Éducation nationale, qui donc est rendu public et qui est titré « Non à la militarisation de l'école ». Monsieur le ministre, nous avons pris connaissance du guide édité par le ministère de l'Éducation nationale en novembre 2025, intitulé, et le titre est « Vaut son pesant de cacahuètes » déjà, c'est moi qui le rajoute ça, c'est « Acculturer les jeunes à la défense et adressé à l'ensemble de la communauté éducative ». Acculturer les jeunes à la défense. Nous souhaitons, poursuivre les fédérations syndicales, par ce courrier, vous faire part de notre profonde inquiétude et de nos revendications concernant ce document, ainsi que la politique actuellement menée par le gouvernement au sein de l'école au nom de l'éducation à la défense. Je ne lis pas tout le communiqué tout entier, mais le ministre des Armées vient de présenter le nouveau service national volontaire dont le calendrier pour candidater et caler sur celui de Parcoursup. Considéré comme une année de césure dans les études, le service national volontaire serait un élément de valorisation dans Parcoursup et dans le parcours académique. Et donc, cela permettrait de se voir octroyer des crédits supplémentaires, des points en plus, quoi. Nous dénonçons les courriers d'unités militaires à destination des chefs d'établissement qui vise à pousser les équipes à faire la promotion du service national volontaire auprès des élèves. Essentiellement, ça vise les élèves de seconde et de troisième. Nous demandons que cette pratique cesse. Nous refusons que l'école et ses personnels soient instrumentalisés pour pousser les jeunes vers l'armée. La campagne de recrutement pour ce nouveau service national doit être immédiatement stoppée, réclament les quatre fédérations syndicales de l'enseignement. Et elles concluent leur communiqué en disant « Nos organisations, FSU, FNEC, FPFO, CGT Éducation et Sud Éducation, sont profondément attachées à la mission d'éducation et d'émancipation qui fonde l'école publique. À ce titre, elles refusent toute mesure tendant à militariser l'école et considèrent que la propagande guerrière, sous quelque forme que ce soit, n'a pas sa place au sein des écoles, collèges, lycées et lycées professionnels. la mise à l'arrêt des dispositifs qui font intervenir des militaires nous paraît d'autant plus nécessaire qu'ils ont été, en début d'année scolaire, le théâtre de graves dérives traumatisantes pour les élèves. C'est pourquoi nous vous demandons de retirer ce guide intitulé « Acculturer les jeunes à la défense » et de mettre fin aux dispositifs comme les classes défense, les rallyes citoyens et tout projet reposant sur un partenariat entre école et armée. Le commentaire que je peux faire pour conclure, c'est que la Libre Pensée, la Fédération nationale et la Fédération départementale des Libres Penseurs approuvent entièrement cette déclaration et saluent à la fois la clairvoyance et le courage des responsables syndicaux qui ont pris cette décision.
Voilà qui est tout à fait intéressant. Et donc, pour terminer, je voudrais mentionner la raison. Il vient d'arriver le numéro de mars, qui a en couverture la parole au crime des églises, la parole aux victimes. Et avec une interview à l'intérieur de Yolande Dufayet de la Tour, qui est la présidente de l'association de la parole aux actes, et qui dit « Nous n'avons pas d'énergie à fournir à l'Église pour réviser sa théologie, sa gouvernance, notre énergie est consacrée aux victimes ». Voilà. Sinon, je voudrais revenir aussi sur le numéro de février de La Raison, dans lequel il y a un article de notre ami Jean-Pierre Bacot qui s'interroge sur les et qui interroge sur les liens actuels en France entre diverses religions et la société. En particulier, il pose la question des divers obscurantismes. Il y a bien entendu, bon, les religions chrétiennes, mais il aborde aussi la question de l'islam, la question des évangélismes, hein, qui sont passés, dont on parle très peu. Hein, et je pense que ça nourrira la réflexion de beaucoup d'entre nous. Voilà. Merci à Claudette, Henri, Michel, Eric. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Libre Pensée des Bouches-du-Rhône, www.lp-13.org. Merci encore à Radio Galère, 88,4 MHz, et à Daniel. Au revoir et au mois prochain, le mercredi 1er avril, ce n'est pas un poisson, hein, de 13h30 à 14h30, comme habituellement. Thank you.